Jack Radio, la radio du lycée Jacques Amyot.
L'actualité vue par les lycéens.
Le 8 mars, journée internationale de la femme, c'est l'opportunité pour l'équipe de Jack Radio de traiter de la question des violences conjugales. Sur 10 000 femmes, 59 sont victimes de violences intrafamiliales dans Lyon. C'est la proportion la plus élevée en France.
Ça fait déjà quelques années que j'en entends parler, mais je trouve que ces temps-ci, on en entend de plus en plus parler.
Le pire dans le sexisme et tout, dans les grandes villes.
Personnellement, je trouve que c'est un phénomène de mode, mais il faut en parler.
C'est énorme, donc je crois que ça doit être une tous les trois jours, non ?
Il y en a plus que ça encore.
Dans notre entourage, souvent, on a des échos.
Ah bah, on entend parler dans les journaux, à la télé, partout. Même dans la famille, on en parle. La violence faite aux femmes, c'est criminel, je dirais.
Il doit y avoir une centaine déjà de femmes qui sont mortes depuis le début de l'année, là.
Et peut-être aussi éduquer dès l'enfance que on tape pas son conjoint, simplement, quoi. Ça peut venir de l'éducation, même si on est quand même sensibilisé. Il y a peut-être encore un peu de travail à faire.
Il faudrait la convaincre d'aller porter plainte pour qu'il y ait des suites, sauf que c'est hyper compliqué de porter plainte. Moi, j'ai déjà porté plainte pour violence et ça n'a jamais abouti. Je peux comprendre que ça décourage, mais je pense qu'il faut quand même pas s'arrêter, continuer jusqu'à ce que ça soit reconnu.
C'est pas assez dénoncé et puis souvent les victimes, elles ont peur d'en parler, voire quand elles en parlent, elles sont pas crues par leur famille ou la police.
Il faudrait déjà plus donner la parole aux femmes qui subissent ce genre de violence et mettre peut-être plus de lois en place. C'est ça qui manque, mais vraiment les faire respecter, ces lois.
Je l'encouragerais à aller porter plainte, mais surtout je la lâcherai pas en fait, parce que quand on est tout seul à faire ce genre de démarche, c'est très compliqué.
Je pense qu'elles doivent être sous pression et que le mari doit leur dire si tu parles, je te tue, des trucs comme ça.
Je la croirais, même si c'est quelque chose de faux, j'essaierais de chercher par moi-même et de l'aider, parce que même si c'est faux, il faut l'aider dans tous les cas. C'est important pour n'importe quoi, l'aider juste.
Il faut sensibiliser entre guillemets une nouvelle génération, parce que c'est grave. On peut l'aider, mais c'est pas à nous de tout faire pour elle. Faut qu'elle se débrouille, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de numéros.
Faire de la prévention dans les écoles.
Il faudrait plus être à l'écoute de certains signes qui montrent que les femmes sont en danger, plutôt que de leur dire « bah il fallait en parler avant ».
Nous avons reçu au studio deux professionnels qui interviennent sur la question des violences intrafamiliales. L'occasion de croiser leurs réponses.
Bonjour Monsieur Landais, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes juge civil aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Serres et coordinateur des services des affaires familiales.
Bonjour.
Alors pourquoi avoir choisi ce métier ? Comment êtes-vous parvenu à être juge aux affaires familiales ?
J'ai pas d'idée précise sur le choix de ce métier. J'allais dire que c'est limite quelque chose de naturel pour moi aujourd'hui. Après, c'est une orientation professionnelle qui s'est dessinée au fil de l'eau et du temps. J'avais entrepris des études de droit et je suis titulaire d'un master 2 en droit, en contentieux et carrière judiciaire. Je me suis donc à mon troisième métier. J'étais au départ éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, donc je m'occupais de mineurs délinquants et de mineurs en danger. J'ai ensuite été directeur d'établissement pénitentiaire où j'ai pris en charge donc des publics difficiles qui avaient commis des infractions et pour lesquelles ils avaient été condamnés. J'allais dire que c'était une orientation qui est apparue à moi comme une évidence de m'orienter ensuite vers la magistrature et pouvoir donc prendre des décisions et essayer donc d'appliquer le droit donc à des situations pratiques du quotidien. Et c'est aussi la dimension humaine, puisqu'on n'est pas des robots, on a en face de nous des personnes, et il est important de prendre en considération donc la totalité de cette personne. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, le rôle du magistrat, il est temps de rester humble, d'apporter une réponse judiciaire applicable et faire en sorte que cette réponse soit appliquée.
Bonjour Noémie Charpie, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes juriste au CDIFF, donc Centre d'information des droits des femmes et des familles. Quelles sont les études que vous avez suivies pour pouvoir exercer votre métier aujourd'hui ?
Alors, pour devenir juriste au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, on nous demande à ce que les juristes aient un bac plus 4 en droit. Et moi, personnellement, j'ai suivi donc un cursus qu'une licence tout d'abord en droit, donc c'est 3 ans en droit général, droit privé. Et puis, j'ai fait un master 2 en criminologie, droit pénal et droit des victimes.
Donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ?
J'ai en charge le contentieux qui a trait à l'exercice de l'autorité parentale, notamment lorsque les parents sont séparés ou encore lorsque les parents sont en instance de divorce. Et lorsqu'il y a des difficultés sur l'exercice de l'autorité parentale, je tranche sur les décisions qui ne parviennent pas à prendre eux-mêmes.
Et sur l'ensemble de vos dossiers, quelle est la part qui concerne les violences familiales ?
Il y a l'ordonnance de protection qui est prévue par les textes, qui est dédiée principalement à préserver les personnes qui seraient victimes de violences conjugales. Depuis le mois de janvier, nous avons été saisis à 6 reprises concernant ce type de dossier. Mais plus largement, on n'est pas à l'abri d'avoir des dossiers qui sont présentés classiquement et derrière lesquels parfois peuvent se trouver des situations un peu critiques où des violences conjugales ou autres violences exercées sur les enfants sont présentes.
En quoi consiste votre métier, en quoi consiste l'association ?
Donc le CIDFF, effectivement, c'est une association départementale qui dépend d'une fédération nationale, la Fédération nationale des CIDFF. Nous sommes là pour informer gratuitement, anonymement et confidentiellement toute personne qui s'interroge sur ses droits dans le département de Lyon. Mais on a aussi un volet d'action plus particulier en direction des femmes, notamment des femmes victimes de violences, on peut dire sexistes ou sexuelles, mais ce qui recoupe en grande partie les violences au sein du couple.
Lyon est le département en France le plus touché par les violences intrafamiliales. Comment l'expliquer ?
Je ne suis pas sociologue, donc ça serait un peu prétentieux de ma part d'apporter une réponse toute faite. C'est un département aussi qui connaît une certaine difficulté économique et sociale. Le département connaît aussi une espèce de désertification d'un certain nombre de services publics. Et il y a aussi beaucoup de départs de citoyens qui quittent les départements. Il est peut-être aujourd'hui peu attractif et donc le retrait de certains services publics et l'absence de services au sein de certains territoires peuvent créer donc certaines difficultés à réagir et à prendre en considération notamment les violences conjugales. Il faut savoir qu'une violence conjugale, ça peut être un médecin traitant qui les perçoit, ça peut être un rendez-vous aux urgences, une dame dit qu'elle est tombée et en fin de compte elle a été victime de violence conjugale, ça peut être à l'école aussi, lorsque des enfants sont victimes de violences et qu'il y a des hématomes et qu'on n'est pas suffisamment réactif, ou qu'à tout le moins donc, les services dont on dispose ne permettent pas de répondre à l'immédiateté et à l'urgence que devrait susciter la réponse. C'est plurifactoriel.
D'après l'AFP, 126 femmes seraient mortes de violences conjugales en France, donc une femme tous les 3 jours. On a le sentiment qu'il y a une sorte d'impuissance de la justice. Qu'en pensez-vous et quelles sont les pistes d'amélioration ?
Je crois que ce n'est pas que la justice, il y a aussi des choses qui doivent être améliorées à plusieurs niveaux. Enfin, il y a quand même une amélioration aussi dans la prise en charge, dans la connaissance de ces phénomènes par la justice qui y porte de plus en plus une grande attention. Alors, par, on va dire, le raisonnement médiatique qu'ont pu avoir les féminicides ou des choses comme le mouvement MeToo qui ont permis une forme de libération de la parole. Et je crois que ça, c'est déjà très important. Mais une fois que la parole est libérée, on va dire, tout n'est pas fini. Après, comment on prend en charge cette parole ? Et je pense qu'il y a effectivement une amélioration au niveau de la prise en charge des femmes et la prise en compte de leur parole au moment du dépôt de plainte et au moment où elles dénoncent des faits. Parce qu'on sait aussi au niveau des violences conjugales qu'il y a ce qu'on appelle un cycle de la violence et qu'elles peuvent dénoncer des faits une fois que la crise est passée. Et c'est très important qu'elles soient prises en charge à ce moment-là et qu'elles aient aussi des solutions de secours qui soient apportées à ce moment-là, des solutions de relogement pour qu'elles puissent échapper à la situation de violence, de quelque chose qui soit pérenne pour elles et leurs enfants potentiellement si elles ont besoin d'être mises à l'abri. Mais souvent, c'est compliqué encore aujourd'hui. Donc je crois que c'est aussi une question de moyens mis à la disposition de ces femmes-là spécifiquement, auxquelles parfois on peut être contraint de dire « Ok, vous allez déposer plainte, c'est bien, mais résultat, elles rentrent quand même à la maison, chez leur mari, chez leur conjoint, chez la personne qui est violente. Ça peut recommencer, ça peut s'aggraver. Et donc si on ne leur donne pas toutes les connaissances sur leurs droits, et c'est aussi pour ça que nous on leur dit « Non, vous avez le droit de vous séparer, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de déposer plainte. » Donc, renforcer la mise à l'abri de ces femmes, renforcer aussi la connaissance du phénomène des violences conjugales par les professionnels qui les prennent en charge, que ce soit les travailleurs sociaux, les policiers, les gendarmes, mais aussi les avocats et les magistrats qui les accompagnent notamment sur les procédures.
Je ne sais pas s'il y a une impuissance de la justice, je pense que c'est une impuissance qui est globale de la société. La justice répond depuis plusieurs années déjà au traitement donc, de la délinquance et plus particulièrement aux violences conjugales. Les pistes d'amélioration, elles sont les suivantes. Donc, accompagner plus largement la victime et que la justice puisse diversifier ses partenaires, que ce soit en amont du traitement judiciaire de l'affaire, mais aussi après, puisqu'il y a tout ce qui est la recherche du logement, la période de reconstruction de la personne qui est victime de violences qu'il faut accompagner et qui doit parfois bénéficier de soins. Et j'irai même plus loin, il y a aussi donc la personne qui est auteur de violences qui doit être prise en charge aussi afin de ne pas réitérer le type de fait pour lesquels il pourrait être condamné.
Vous êtes amené dans le cadre de votre travail à recevoir des victimes de violences conjugales. À quel moment êtes-vous saisi et par qui ?
Dans le cadre de l'ordonnance de protection, je peux être saisi directement par la personne qui subit ou subirait des violences conjugales, puisque j'emploie le conditionnel. Tant que les dossiers ne m'est pas présenté, je suis toujours sur des déclarations qui sont faites par une personne. Je peux être saisi aussi par le procureur de la République, qui, dans le cadre d'une enquête pénale, va juger utile qu'en parallèle, donc, le juge aux affaires familiales tranche sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Globalement, la majorité des saisines sont faites par les parties. Il est parfois dès lors compliqué pour elle donc de rassembler l'ensemble des éléments qui permettent d'établir les propos ou les violences donc dont elle déclare être victime.
Comment faites-vous pour trancher entre les deux parties ?
Moi, je ne suis pas dans une logique de gagnant-perdant, parce que je suis dans juste affaires familiales, et à mon sens, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit conduire donc, la prise de décision, l'intérêt de l'enfant donc, à maintenir ou non des relations avec l'un ou les deux parents, et effectivement faire en sorte que son éducation et son enfance et son adolescence se déroulent au mieux, de la manière la plus apaisée.
Comment se déroule la procédure une fois que l'on a eu recours à vous ?
Ça dépend des situations. C'est pas évident. Il n'y a pas deux situations pareilles. Il y a certaines personnes où on les sent vraiment en danger. Et dans ce cas-là, on va effectivement très fortement conseiller d'aller déposer plainte pour que potentiellement la personne soit mise, peut-être pas en détention, mais en tout cas en garde à vue, éventuellement évincée du logement, interdit de la contacter. Parce que c'est des choses qui existent et qui se passent juridiquement, même si effectivement il y a peut-être des ratés. Il y a des condamnations qui sont prononcées. Il y a des mesures de protection qui sont prises. Parfois, effectivement, la réponse peut être la police, mais nous, ce que nous préconisons surtout, et là où notre accompagnement, on va dire, est le plus poussé, c'est surtout sur la démarche de séparation. On essaye d'accompagner sur la séparation parce qu'on sait que pour qu'une femme quitte définitivement son conjoint violent, en moyenne, il faut qu'il y ait 7 tentatives de départ. Et que si elles sont toutes seules, c'est quasiment sûr, en tout cas, que la tentative de départ. Alors, il peut y avoir un départ, c'est-à-dire que je vais me faire héberger quelques jours chez ma tante, ma mère, ma sœur. Mais voilà, le mari va revenir et puis je vais retourner avec lui. Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment de lancer des procédures, notamment avec un avocat quand c'est le cas ou devant le juge quand c'est possible, d'accompagner, d'expliquer la procédure, de leur dire que c'est possible et aussi de les accompagner vers autre chose, parce que souvent, les femmes victimes de violences retournent avec leur conjoint. C'est pas parce qu'elles aiment ça, hein. Souvent on entend ça, mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est parce que c'est ce qu'elles connaissent. Et que comme nous tous, on est confortable avec ce qu'on connaît. Et donc, leur permettre d'avoir une alternative qui soit construite, concrète. Donc, par exemple, on a des conventions avec des bailleurs sociaux pour qu'elles puissent être relogées assez rapidement quand c'est possible. Et c'est aussi quelque chose de très important. Donc voilà, notre accompagnement, il peut être sur la procédure autant pénale, de séparation, mais aussi sur un accompagnement vers le logement, vers du soin psychologique quand c'est nécessaire, parfois, et vers de l'emploi aussi, parce qu'on travaille aussi avec des partenaires emploi. On sait que financièrement, ça peut être important qu'elles retravaillent quand c'était plus le cas, pour pouvoir retrouver une autonomie hors de leur conjoint violent.
Et concernant la libération de la parole des femmes, est-ce que vous avez vu une différence peut-être avec un nombre plus élevé de cas à traiter ?
On a une petite augmentation en 2019 du nombre de personnes reçues au sein du CIDFF par rapport à 2018, mais pas nécessairement sur des situations, on va dire, de violence grave. Ce que je constate, je crois quand même, c'est une façon de ne plus tolérer des choses qu'on pouvait tolérer par le passé. C'est-à-dire qu'il y a souvent des femmes qui viennent nous voir. Alors, elles ne sont pas forcément victimes de violences conjugales au sens où elles pourraient déposer plainte parce que ce qu'elles subissent est interdit. Mais voilà, d'avoir des reproches tout le temps, d'avoir le sentiment, souvent avéré par des faits qu'elles nous racontent, d'être inférieure à leur conjoint, fait qu'elles ne le supportent pas. Et je crois qu'au-delà de la libération de la parole, il y a aussi une libération des comportements et ça devient de mieux en mieux, on va dire, accepter quand même de parler de séparation, d'être parti parce qu'on ne tolérait plus le comportement rabaissant et infantilisant parfois du conjoint ou du mari. Et je trouve que c'est positif.
Estimez-vous que l'opinion publique et la politique jouent un rôle dans, par exemple, vos décisions ?
Je dirais non et oui, non, puisque nous sommes indépendants en tant que magistrats et gardiens des libertés individuelles. Oui, puisque je suis aussi citoyen. Et effectivement, on se rend compte que les médias jouent un rôle, j'allais dire, d'influenceur un peu sur ce qui doit être ou pas évoqué dans les informations. Après, en tant que magistrat, il est important aussi de se détacher de la ferveur médiatique. Et parfois, l'opinion publique n'a pas toujours connaissance de l'ensemble des éléments qui sont soumis aux magistrats. Et on ne refait que retranscrire la décision qui est rendue sans les évoquer dans les médias plus largement quelles sont les pièces et autres éléments qui étaient portés à la connaissance du magistrat afin qu'il tranche.
Il y a une nouvelle ordonnance qui a été mise en place en décembre 2019, donc pour réduire le délai entre la demande de l'ordonnance et l'audience. Donc la moyenne nationale était de 40 jours et c'est maintenant à 6 jours. Est-ce que vous trouvez cette réforme efficace ?
La volonté du législateur est d'apporter des réponses rapides et efficaces dans des situations critiques à travers le raccourcissement du délai et le délai de 6 jours entre la date où on va donner l'audience aux parties et la rédaction du jugement qui doit être fait par le juge d'affaires familiales.
Est-ce que vous travaillez avec les services de police ou de protection de l'enfance ?
On travaille effectivement ensemble, de police et de gendarmerie, je dirais, parce que Lyon a la particularité d'être très rurale. Donc, on a deux commissariats à Sens et à Auxerre, mais sur le reste du département, c'est les gendarmeries. Donc oui, on travaille avec eux, notamment sur des réunions de travail pour améliorer la prise en charge, pour améliorer ce qu'on peut proposer aux victimes, mais surtout avec des travailleuses sociales au commissariat de Sens et sur la gendarmerie dans Lyon. Et donc, on travaille beaucoup avec elles sur les questions d'accompagnement et de prise en charge, notamment des victimes et des familles.
Y a-t-il, selon vous, des pistes d'amélioration pour améliorer la coordination entre les différentes institutions et avoir peut-être des mesures plus adaptées ou plus efficaces envers les personnes donc, atteintes de violences conjugales?
Je pars du principe que tout peut être amélioré. La meilleure des pistes d'amélioration, c'est de fonctionner donc, de manière transversale et d'arrêter de cloisonner les choses, de connaître l'ensemble des partenaires, que les partenaires connaissent aussi l'institution judiciaire. Effectivement, en décloisonnant un peu les fonctionnements donc, administratifs et institutionnels que chacun peut connaître, eh bien, on peut avoir une meilleure réactivité, connaître la capacité à chacun pour résoudre ou absorber telle ou telle problématique et ainsi donc, s'orienter plus rapidement vers les personnes ressources, notamment pour appliquer sa décision. Et c'est aussi ça le rôle du magistrat, c'est être en capacité de connaître le tissu territorial dans lequel il intervient.
Selon le rapport du Grenelle sur les violences conjugales, ils affirment que les commissariats incitent plutôt à déposer une main courante et non pas à porter plainte. Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça arrive à Auxerre? Et est-ce que vous avez déjà eu des cas?
C'est réel, enfin en tout cas c'est effectivement ça arrive, mais il faut bien savoir que dans la loi c'est le contraire qui est préconisé et je peux vous dire aussi, je sais qu'au niveau du parquet d'Auxerre, c'est pas les instructions qui sont données. On nous demande bien justement de limiter au maximum les mains courantes et de prendre plutôt des dépositions. Alors ça peut être même, et là d'ailleurs je trouve qu'il y a une amélioration de ce côté-là parce que récemment j'ai même eu une femme qui s'est d'elle-même présentée au commissariat, mais elle ne voulait pas déposer plainte. Donc vous voyez là on est un petit peu dans l'inverse. Elle ne voulait pas déposer plainte, mais le policier a quand même pris sa déposition, l'a entendue, et elle a expliqué tout ce qu'elle vivait, qui juridiquement peuvent être qualifiées d'infractions pénales au sens où c'est des violences conjugales qui sont interdites par la loi. Elle a expliqué tout ce qu'elle voulait dire, et à la fin, le policier lui a demandé « Est-ce que vous souhaitez déposer plainte ?» Elle a pu dire non, mais il n'empêche que ces informations ont quand même été transmises au parquet, au procureur de la République, qui a décidé de donner des suites à cette affaire et a convoqué son conjoint pour répondre de ses actes et potentiellement peut-être être condamné quand même. Donc, même sans déposer plainte, je veux dire, on peut quand même aboutir à quelque chose. Mais c'est vrai que le problème avec la main courante, c'est que normalement, ça reste dans le commissariat sans remonter au parquet et c'est surtout ça qu'il faut éviter si on veut limiter le nombre de situations qui passent à côté de la connaissance de la justice.
Pour revenir sur les pistes d'amélioration, on entend souvent qu'il faut créer de nouvelles lois. Est-ce que vous pensez que ça passe par là?
Je pense qu'il faut réfléchir sur les lois qui existent, tirer les enseignements de celles qui sont en cours d'application. Mais je ne suis pas certain parfois que cela doit passer par une nouvelle loi. Une application donc, réelle et efficace des lois déjà existantes qui permettrait peut-être de vérifier donc, si celles qui existent sont bien faites et en tout cas donc, correspondent donc, aux situations qui doivent être traitées.
Les portes du CIDFF sont ouvertes aux femmes. Est-ce qu'elles sont aussi ouvertes aux hommes et est-ce que ça vous arrive d'en recevoir?
Oui, alors tout à fait. On est donc le centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc effectivement, on reçoit en moyenne 20% d'hommes par an, qui est une statistique à peu près constante sur les dernières années. Ces hommes-là viennent nous consulter pour avoir des informations sur leurs droits en tant que papa, souvent en tant que conjoint. Et ils viennent aussi nous consulter sur des questions relatives à leurs droits au niveau du travail, au niveau de leur logement. Enfin, ça peut être assez varié. Et il nous arrive parfois d'avoir des hommes qui sont victimes de violences, même si c'est effectivement très à la marge et beaucoup plus rare. Ça existe, il y en a, on le sait. Nos portes ne sont fermées à personne. On serait contraire à ce pourquoi on se bat, c'est-à-dire surtout l'égalité. Les portes sont aussi ouvertes aux mineurs, parce que de toute façon, on les reçoit anonymement, gratuitement et confidentiellement. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir nous consulter pour nous poser des questions sur ses droits, on le recevra au CIDFF.
Le Centre d'information des droits des femmes et des familles se situe au Phare, avenue de la Croix, 89 000, Auxerre. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions.
Bah, merci à vous d'être venu et d'avoir accepté notre invitation.
En tout cas, je vous remercie pour m'avoir accueilli et voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions donc, de la meilleure façon qu'il soit et encore merci pour votre accueil.
Les violences au sein du foyer ne sont pas une fatalité. Appelez le 39 19. des organismes seront là pour vous aider.
Aujourd'hui, nous recevons Juliette, élève en terminale 2 au lycée. Juliette, tu es venue nous présenter ton travail artistique réalisé en art plastique sur le thème des violences conjugales. Que représente ton travail ?
Mon travail est composé de 8 boîtes de style format jouet qu'on peut trouver dans un magasin style industriel. Ces boîtes sont composées de 8 points fermés qui représentent les poings des hommes donnant des coups à leurs femmes. Chacun de ces poings a été moulé au préalable en alginate puis coulé en plâtre de couleurs différentes, des couleurs primaires.
Pourquoi avoir choisi de travailler sur ce thème ?
Le sujet des féminicides revenait souvent sur mon téléphone et ça devenait presque une banalité. C'était un sujet que je trouvais très important puisqu'on est tous concernés par les violences conjugales.
8 boîtes, à l'intérieur de chaque boîte, un point. Chaque point est représenté avec des couleurs primaires. L'extérieur des boîtes est blanc. Pourquoi ces choix ?
J'ai choisi les couleurs primaires pour faire écho à l'éducation. Pour moi, le problème majeur de ces féminicides et de ces violences conjugales, c'est surtout l'éducation. Pas l'éducation de l'école, mais plutôt l'éducation dans le cercle familial. Certaines personnes peuvent avoir une image encore trop restreinte sur la place des femmes et des hommes dans la société, c'est-à-dire avec des préjugés. Les couleurs primaires, du coup, me permettaient de rappeler ce problème qui perdure. Et ce serait donc à l'éducation, donc à l'école, de nous instituer les bons comportements, expliquer clairement ce qu'est la place de la femme dans notre société actuelle.
Sur cette boîte, on peut lire des prénoms, celles des victimes, Monica, Sonia. Pourquoi avoir choisi de les nommer ?
J'ai choisi de ne pas les laisser dans l'anonymat, puisqu'il est important pour moi de donner une sorte de respect à ces femmes et leur rendre hommage pour pas les oublier, puisque ces femmes, ça peut être n'importe qui, de n'importe quel milieu social, n'importe quel âge. Il est important de pas les oublier.
Le 20 février dernier, des élèves du lycée se sont rendus au lycée Vauban pour recevoir un prix dans le cadre des trophées académiques Égalité, Mixité. Notre journaliste a donné la parole aux participants et à tous les participants.
Est-ce que tu t'es déjà sentie discriminée du fait que tu sois une fille ?
Non, en revanche, j'ai déjà remarqué que les filles bénéficiaient d'un traitement de faveur. Dans certains domaines, comme le sport par exemple, on est moins exigeant avec les filles que les garçons. On sous-estime les filles, leur capacité à accomplir les mêmes tâches que les garçons, au final.
Je sais pas, par exemple, les maris qui battent leurs femmes, enfin des trucs comme ça.
Dans les métiers, des fois, au niveau des salaires, il y a des gens qui sont sexistes, des insultes dans les transports en commun. Par exemple, dans les cours d'école, des fois, non, t'es une fille, tu joues pas avec moi, non, tu dégages. Enfin, oui, ça arrive souvent déjà. Enfin, je pense que vous êtes d'accord, les filles. Hein.
Justement, nous deux, on a un compte sur le féminisme sur Instagram, féministe.exe. On reconnaît les inégalités entre les hommes et les femmes, sans oublier qu'on a quand même une différence par rapport à notre corps et qu'il y a des trucs qui sont normaux et tout, et voilà, sans dénigrer l'homme, évidemment, c'est important. Mais il y en a partout dans la justice, dans notre société, il y en a partout.
Alors, vous êtes des adultes en devenir, est-ce que vous êtes stressée par ça ?
Oui, bah par rapport au travail. Enfin, c'est tout, c'est ça qui me stresse le plus. Oui, le traitement qui ne soit pas égal.
Et toi ?
Non, ça va.
Bonjour madame la rectrice, où situerez-vous les prémices des inégalités hommes-femmes ?
Vous me demandez de m'exprimer en tant que rectrice de l'Académie de Dijon. Les inégalités hommes-femmes, en réalité, elles prennent racine très très tôt dans l'inconscient, dès le plus jeune âge. Dans les comportements qu'on peut adopter dans la cour de récréation, par exemple, un groupe de garçons va refuser qu'une fille vienne participer à leur petite compétition de foot dans la cour ou vienne jouer avec eux. Déjà là, on a une trace d'inégalité ou de refus de se mêler, de refus de se comprendre et peut-être de refus de se respecter totalement. Alors je crois qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience du côté des élèves et du côté des enseignants et de tous les personnels de l'éducation. C'est chaque jour qu'il faut faire attention. On doit interroger aussi bien les garçons que les filles en cours de sciences ou en cours de mathématiques. On doit encourager aussi fort les filles et les garçons à faire tel métier, à avoir telle ambition et à rêver d'un métier prestigieux ou de fonctions importantes. Puis lutter contre tout ce qu'on pourrait détecter en termes d'inégalités, de petites violences dans la cour, d'irrespect entre filles et garçons, de critiques à l'égard d'une fille qui serait en jupe alors que tel groupe de garçons considérerait que c'est pas bien.
Comment le sport peut être un vecteur de mixité et donc un moyen de réduire les inégalités hommes-femmes ?
Le foot, c'est pour les hommes, sauf que maintenant, il y a plus de catégories féminines. La danse, ça se généralise plus avec les hommes qui font de la danse, l'équitation, comme la Coupe du Monde féminine.
Tu peux me dire si tu as déjà entendu parler du terme féminicide ?
Je vois pas vraiment ce que c'est.
Il est évoqué sur plusieurs comptes Instagram qui dénoncent en fait les violences conjugales, et du coup en fait ce terme est évoqué pour dénoncer en fait les morts de toutes ces femmes innocentes.
Oui, c'est le fait de tuer une femme.
C'est tuer une femme parce que c'est une femme.
J'avoue que je savais pas trop que ça posait problème à la justice. Les hommes sont égaux, les femmes sont égaux aussi, mais féminicide est égal à homicide.
Nos experts en droit vous répondent. C'est la Minute Juridique.
Bonjour et bienvenue dans la Minute Juridique de Jack Radio. Aujourd'hui, nous allons évoquer le féminicide.
Commençons simplement. Qu'est-ce qu'un féminicide ?
Alors, le terme féminicide a été inventé par une sociologue sud-africaine dans les années 1970. Aujourd'hui, en France, ce mot féminicide figure uniquement dans le dictionnaire Le Petit Robert. Depuis 2015 et nulle part ailleurs, sa définition est la suivante. Meurtre d'une femme en raison de son sexe. En 2019, environ 126 femmes, selon l'agence France Presse, ont été tués par leur conjoint, ex-conjoint ou partenaire de PACS.
Face à ce constat alarmant, qu'a décidé de mettre en place le gouvernement ?
Le gouvernement a annoncé des mesures d'urgence. Le 23 novembre dernier, s'est tenu à Paris un Grenelle sur les violences conjugales. Il est en particulier envisagé de faire évoluer le code pénal pour répondre aux attentes de la société civile qui souhaite voir mieux réprimer les féminicides.
Oui, mais pourtant le code pénal réprime déjà ce qu'on appelle le meurtre conjugal, n'est-ce pas ?
En effet, selon l'article 221-4 alinéa 9 du code pénal, un meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le meurtre d'un conjoint constitue donc déjà une circonstance aggravante qui permet de réprimer les féminicides.
Existe-t-il une autre raison qui s'oppose à l'entrée du terme féminicide dans le code pénal ?
Le terme féminicide n'est pas recevable comme qualification pénale. C'est une entorse à l'universalité de la loi. Si le code pénal réprime plus durement le meurtre d'une femme que celui d'un homme, il y a rupture d'égalité.
Mais alors, sur quel point le code pénal pourrait-il évoluer ?
Eh bien, il pourrait réprimer plus durement les meurtres de femmes quand ils interviennent en dehors du cadre conjugal visé par l'article 221-4 mentionné plus haut. Actuellement, l'article 132-77 établit que « les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise en raison de l'orientation sexuelle de la victime ». Il s'agirait de remplacer cette formule par celle-ci « à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ».
C'est une évolution qui semble marginale donc. Pourquoi vouloir à tout prix modifier la loi ?
Il existe en effet déjà tout un ensemble de mesures et de dispositions pénales. La loi existe. Le problème et qu'elle est mal appliquée. C'est une manie bien française de toujours vouloir régler les problèmes avec de nouvelles lois, plutôt qu'en appliquant correctement celles qui existent déjà. C'est ce qu'on appelle l'inflation législative.
Merci à tous déjà de nous avoir écoutés. Merci également aux élèves du lycée, au personnel d'éducation et à toutes les autres personnes ayant répondu à notre micro pour cette émission. Et puis surtout, merci au rectorat de Dijon, merci à la région Bourgogne-Franche-Comté, à la commune d'Auxerre et enfin à l'association des anciens élèves du lycée Jacques Amyot qui nous permettent de vivre cette aventure de la radio, de nous enregistrer, de pouvoir vous proposer ce format. Et puis quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle émission avec Jack Radio, la radio du lycée Jacques Amyot.